franceinter.fr.
Bonjour Florence Obna.
Bonjour.
Grand reporter au Monde, vous publiez aux éditions de l'Olivier en France. C'est le recueil de vos reportages parus dans le journal depuis la campagne de 2012 dans... Disons, pour faire simple, la France profonde, pardon pour le cliché, en tout cas dans une France qui souffre et qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. Dans votre avant-propos, vous rapportez ce que vous dit un jour votre compagnon de banquette dans un train. Vous n'en avez pas marre de faire les chiens écrasés et vous vous dites que la plupart de ceux que vous rencontrez sont en fait des humains écrasés. Écrasés par quoi ?
Je pense que j'entendais la chronique de Bernard Guetta disant que tout était en train d'être redéfini dans le monde. Et je pense que la France, faisant partie du monde, ça je dis un poncif, ici aussi tout est en train de bouger. C'est-à-dire ce qui semblait des certitudes, la droite, la gauche, les allocations, le prix d'un billet de train, même les choses les plus petites, j'allais dire un prof jusqu'à très récemment, c'était quelqu'un qui était payé pareil que son voisin. Maintenant, des statuts de prof, il y en a 10, les uns sont payés cher, les autres sont vacataires, les troisièmes ont encore un autre statut. Et donc dans cette espèce d'univers mouvant, je pense que c'est ça en réalité la pire chose que vivent les gens. C'est le fait de ne plus avoir de pierre où poser le pied de façon ferme.
Et dans ce grand changement, vous allez voir plutôt du côté des perdants. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se ressentent. Il y a cette musique aussi qu'on entend plusieurs fois dans vos reportages, dans vos sujets. C'est c'était mieux avant, c'était le bon temps, c'est...
Oui, ça je pense que c'est la corde à laquelle on se raccroche. C'est d'ailleurs pas forcément vrai, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on aime dire. Je pense que c'est banalement plutôt l'idée de se dire qu'est-ce qu'il y a devant, quoi. C'est toujours cette même chose. L'impression que d'avoir eu un État pendant longtemps, l'État c'est quelque chose de fort en France, contrairement à certains autres pays européens comme l'Italie, où l'État est une chose dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas forcément. En France, être citoyen, ça veut dire quelque chose. On a tous pris la Bastille, hein, et fait la Révolution. On est bien d'accord. Donc, l'État, c'est nous. Et cet État-là, les gens s'y reconnaissent peu aujourd'hui. Ils ont l'impression qu'il n'est plus juste avec, chacun de ses enfants. Que dire que l'école n'est pas la même pour chacun, c'est devenu une banalité. Que être soigné à l'hôpital, ça ne veut pas dire la même chose à Paris ou quand on a des connaissances, quand on a du piston. Voilà. Il y a un côté république bananière que les gens vivent très profondément, je crois, aujourd'hui.
La crise est omniprésente dans vos reportages avec des gens en souffrance qui souvent ont peur du déclassement ou qui déjà se découvrent pauvres.
Oui, c'est-à-dire que ça aussi, ça bouge extrêmement. Et c'est vrai que l'image que nous autres journalistes, on leur renvoie, ou les partis politiques d'ailleurs, c'est de dire, voilà, les gens vont mal, on leur tape dans le dos en disant malheureux, c'est ça va. Et l'impression que c'est difficile aujourd'hui de gagner, d'avoir une image de soi qui est un peu valorisante. Et je pense que dans la percée du Front National, c'est aussi ce miroir-là que leur tend le Front National. C'est-à-dire, c'est avec nous, vous allez gagner. Alors, c'est quelque chose de très virtuel, hein, et je pense qui ne se raccroche à rien, qui ne se raccroche presque plus même à des idées, mais qui se raccroche à, voilà, la victoire, elle est avec nous. Et ça, c'est quelque chose de très grave.
On va revenir sur les ressorts des succès du Front National. Vous avez suivi la campagne, notamment à Hénin-Beaumont. Il y a une série de papiers, de reportages de vous. Mais vous avez dit tout à l'heure, ce sont des gens qui... ce défi de la classe politique, de tout ce qui vient de Paris, mais qui ne sont pas pour dépolitiser pour autant. Hein. Ils ont des avis, hein, sur les questions économiques.
Ah oui, mais c'est ça qui est sympathique en France, c'est qu'on est tous, on s'y connaît tous à fond en football, ouais. On est tous économistes, voire commentateurs politiques, désolé. je rigole parce qu'il y a mon voisin qui est Thomas Legrand, qui l'est en vrai. Et donc voilà, on est tous en train de commenter et avec une certaine pertinence, je veux dire que pendant longtemps, moi la première, j'ai rigolé quand les gens disaient UMPS, c'est tous les grands partis, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France s'est un peu coupée en deux. Il y a un vote système et un vote anti-système. Et c'est réellement un électeur sur deux, hein, si on compte. L'abstention, les partis de la gauche et le FN, un électeur sur deux vote aujourd'hui contre un système en place. Et je crois que c'est quelque chose de fort et les gens se définissent réellement comme ça, se définissent réellement comme je vote pour ce qui existe ou je vote contre ce qui existe.
Avec des ressorts de crise qui ne sont pas seulement économiques, vous décrivez aussi une France qui ne se comprend plus et qui se crispe sur des questions identitaires. Elle est très présente, la question identitaire, dans la France que vous avez traversée, Florence Obna.
Elle est elle est présente en termes de place, c'est-à-dire dans un pays qui bouge, j'allais dire, quelle est ma place, quelle est la place que j'occupe, c'est ça qui est en train de se faire. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée, j'ai fait la tournée avec un dépanneur de plomberie, donc vous voyez, c'est assez... Et donc on est passé d'appartement en appartement pendant 2 jours. Et il s'est trouvé que ça coïncidait avec cette actualité, vous savez, cette jeune... lycéenne Leonarda qui était expulsée, qui était
vers le Kosovo.
Au Kosovo, exactement. J'allais dire en Albanie bêtement, mais c'était au Kosovo. Et partout où on rentrait, les radios ou les télés étaient allumées et on entendait cette actualité qui revenait toute la journée. Et donc, à la dernière personne qu'on a vue, qui était vers 18h, la dame qu'on dépannait nous dit, écoutez, voilà, ils nous ont même pris ça, ils nous ont même pris les médias. Et là-dedans, c'est, je pense que plus qu'une, voilà, qu'une colère, qu'une rage contre quelqu'un qui serait différent ou qui serait, d'une origine différente, c'est plus ma place. Pourquoi les médias ne parlent pas de moi ? Très souvent, on nous dit que les journalistes sont mal reçus. Moi, j'ai toujours été extrêmement bien reçue, justement, en disant « moi aussi, j'ai droit au micro, moi aussi, j'ai droit à parler à la radio, à la télé ». Ou dans les journaux. Et ils étaient plutôt déçus que j'ai pas de caméra que l'inverse.
Mais les crispations identitaires, c'est dans les deux sens. Vous racontez par exemple des musulmans qui décident de porter le voile ou de manger halal après avoir reçu des insultes dans la rue.
Oui, mais c'est vrai que dans cette démarche autour du voile, quand on prononce en France le mot voile, c'est vrai que tout le monde s'énerve. C'est un de ces mots qui fait qu'on appuie sur le bouton de la crispation générale. Et donc j'ai essayé de voir pourquoi des jeunes femmes mettaient le voile. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule façon de mettre le voile. Il y a même des gens qui se définissent un peu comme « Ah moi, c'est un peu comme les punks à une époque ». Enfin, il y a quelque chose de très divers dans cette façon de porter le voile. Il y a des gens évidemment très croyants, des gens très provoques, des gens... Et je pense qu'il n'y a pas un seul voile en France. En tout cas, pour dire, c'est vrai qu'à la fin de chacune de ces chroniques, et c'est le grand plaisir d'écrire, j'allais dire, dans son pays, c'est qu'on a beaucoup de réactions.
Oui.
Moi, j'écris souvent sur la Syrie ou sur des pays très loin, très ailleurs. Et là, tout le monde est d'accord. Vous êtes un héros, c'est formidable. Vous allez là-bas, vous allez vous faire tuer, incroyable. Quand vous écrivez sur votre pays, vous êtes c'est mal, vous êtes connivant, c'est pas du tout comme ça qu'on est, etc. Et donc les plus grandes réactions sont sur le voile. Dès que vous écrivez un papier sur le voile, j'ai eu jusqu'à 600 mails ou 700 mails. Alors pour, contre, évidemment, c'est très contrasté, mais on voit vraiment les sujets clivants.
Oui. Sur le vote Front National aussi, je retiens cette parole de... C'est un policier à la retraite qui vous parle dans un petit village du Gard, à Aubord, qui a voté fortement Front National, et qui vous dit « ce sont les petits trucs de la vie qui font voter FN, pas les grandes théories. Quand une voiture descend la rue, sono à fond 3 fois de suite, je regarde les gens... » Et j'en vois au moins 10 qui passent du côté Front National. Il a raison ?
Oui, je pense qu'il a pour partie raison. Encore que là, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule façon de voter Front National, hein, ça c'est sûr. Mais oui, je pense que c'est ça, qu'aujourd'hui, quand vous dites on va faire quelque chose en commun, mais c'est vrai aussi, il y avait des syndicalistes de la CGT qui défendaient 4 d'entre eux qui sont accusés d'avoir fait des tags, etc. Et donc, il y avait des grandes manifestations pour défendre 4 personnes de la CGT. Donc la CGT manifestait pour défendre la CGT. Je trouve ça très bien d'ailleurs. Mais en tout cas, je leur disais, mais vous ne manifestez plus pour les retraites ou pour des thèmes. Ils disent, maintenant, tout ce qui est commun ne marche plus. Donc on ne met plus dans la rue des gens pour un thème commun. Et je crois que ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une petite crispation individuelle vaut théorie générale aujourd'hui. C'est très frappant.
La peur du déclassement, j'en parlais tout à l'heure au début de cette interview. C'est très présent dans vos reportages sur des gens qui vraiment pensent... qu'ils peuvent s'en sortir. Je pense à ce couple, Sarah et Eddy, à Aubervilliers, après l'incendie de leur immeuble. Ils pensaient avoir plutôt bien réussi dans la vie. Ils gagnent 2 800 € par mois à deux, etc. Et puis, bon, il y a cet incendie. Et ils finissent et ils vous disent « c'est fini, on va tomber, on n'y arrivera jamais ».
Oui, et c'est vrai que c'était un couple qui s'est dit « voilà, on va se lancer dans la vie, on se met à Aubervilliers et on ne demande pas de logements sociaux
oui. ».
Donc nous, on veut avoir cette image-là de nous-mêmes et l'immeuble brûle. Et dans cet immeuble, certains locataires étaient des Égyptiens sans papier. Et c'est par malheur à cause d'eux que le feu a eu lieu. Et donc l'immeuble brûle et l'employeur de Sarah, cette jeune femme, lui l'accueille en disant « Ah mais je ne pouvais pas imaginer que tu habitais dans cet immeuble-là. » Et dans cet immeuble-là, il y a évidemment avec des sans-papiers. Avec... Et donc elle a senti que la vision qu'on avait d'elle avait complètement changé. Et je crois que quand on parle de déclassement, d'image qu'on a de soi, de place qu'on a dans la société, c'est exactement ça dont on parle. C'est-à-dire qu'on se dit « J'y suis presque, bientôt j'aurai un autre appartement. » Et l'image qu'on vous renvoie de vous est tout autre. Et c'est ça qui lui faisait mal, c'est que tout à coup, on lui disait « Ah, mais t'es dans cet immeuble-là. » Et j'y suis presque arrivée. Et dans ce presque, il y a évidemment les doigts qui s'agrippent à l'appui-fenêtre en disant « Peut-être moi aussi, j'aurai l'appartement. » Et là, elle se dit « Ça a tout s'est effondré. » Et c'est ce rêve-là qui s'effondrait dans cet incendie, en réalité.
Florence Obna, grand reporter au Monde, on poursuit cette discussion avec vous dans quelques minutes, avec les auditeurs d'Inter qui peuvent nous appeler ou réagir sur les réseaux sociaux. Vous connaissez les numéros et les procédures. En France, c'est le recueil de vos reportages qui paraît aux éditions de l'Olivier. On s'arrête un instant avant la revue de presse.